joue toute la journée sur un coup. Et de toute façon, j'ai peur quand tu me dis ça. Moi, je suis un bon d'œuf, j'ai besoin du plancher des vaches. L'altitude, ce n'est pas pour moi. Alors je t'en prie, grand frère, façonne-moi un gentil Dieu, très gentil, qui a la justice d'un côté, le sauvetage des âmes de l'autre. Façonne-moi un joli maître, bien gentil, qui vient avec des ailes de grand ange, parsemer l'inspiration, l'intuition, qui vient ouvrir nos chakras dès qu'on l'invoque. Crée-moi aussi un bel ange gardien qui est là pour me protéger chaque fois que je prends la voiture, qui me dira comment je dois prendre le virage. Je t'en supplie, dis-moi que je suis en sécurité. Dis-moi que le sol que je touche est un sol qui va me porter. Ne me dis pas que la terre est perdue dans l'espace et qu'elle tourne dans le vide. Ne me dis pas ça. Et c'est à ce moment-là que le maître dit: mais non seulement la terre tourne dans le vide, mais en plus, toi-même, tu es dans le vide, et tu es le vide. Et à ce moment-là, comme une vieille potiche qui aurait reçu un coup de marteau, on voit le vieux bœuf tomber en mille morceaux, s'émietter complètement, si bien qu'il ne reste plus qu'un petit tas de cendres et un maigre filet de fumée qui monte désespérément dans le ciel. Il est mort. Mort pour avoir approché trop fort un instant, une vérité pour laquelle il ne s'était pas préparé, ou qu'il avait toujours renié parce qu'il préférait le plancher des vaches. Prépare-toi à cette liberté. Prépare-toi non seulement à comprendre que la terre tourne dans l'espace, vide, mais prépare-toi aussi à comprendre que toi aussi, tu es un être libre qui, comme une planète, tourne dans l'espace vide. Et dans ce mouvement, dans cette danse, tu vas pouvoir toi-même créer d'autres mondes. Les bras ouverts, les bras en croix. Tu verras des sphères sortir de ton cœur. Les premières sphères ne seront pas très belles, c'est certain. Tu n'arriveras même pas à créer des nuages gazeux. Ça n'arrivera même pas jusqu'au plan physique. Tu te contenteras simplement d'une petite boule de potier sur un plan éthérique. Mais petit à petit, tu verras les mondes sortir de toi, devenant de plus en plus parfaits, pouvant atteindre de plus en plus l'expression physique. Et tu contempleras alors les vérités éternelles, et tu comprendras ce que cela veut dire qu'être père de l'humanité. Tu comprendras ce que cela veut dire que de se sacrifier pour les hommes, que de donner sa vie et sa substance pour l'évolution d'une race. Et tu soupireras quand tu entendras cette même humanité t'implorer et te dire: bien, fais-nous des jours heureux. Et tu leur diras: mes pauvres enfants, si vous saviez combien moi-même j'ai chanté la même chanson, et si vous saviez par quel silence on m'a répondu, mais par quelle lumière aussi. Et ce n'est qu'en acceptant cette lumière que j'ai compris comment faire de meilleurs jours. Alors je vous administre la même leçon. Un homme qui veut évoluer ne peut pas se permettre de perdre du temps, ni avec les sentiments de sécurité qu'apportent les dogmes, ni avec l'imagination, imagination dont il se sert pour créer les images de Shambhala, les images des maîtres, les images d'un dieu cosmique ou du nouvel âge. Tu n'as pas de temps à perdre avec toutes ces choses. Le nouvel âge, c'est ici et maintenant, dans tes chaussures, Ce n'est pas dans 50 ans. Ce n'est pas non plus spécialement pendant le Verseau. Le Christ et sa réapparition, ce n'est pas non plus pour demain, c'est ici, maintenant, tout de suite, où ça n'est jamais. Parce que même si le Christ passe en chair et en os, si en toi il n'est pas réveillé, tu ne le verras pas. Tu ne l'accepteras pas, tu ne le reconnaîtras pas. Tu verras un homme passer, tu te diras, mais tiens, voilà revenue la mode des longues barbes. C'est tout ce que tu verras du Christ. Un être qui, comme autrefois, porte la barbe, les cheveux longs. Et ah oui, parce que peut-être il a une belle génétique, des beaux yeux en amande qui envoient la lumière. Mais s'il envoie la lumière, c'est parce que lui, au moins, mange bien. Il n'est pas perturbé côté digestion, c'est certain. Alors il est bien équilibré, il dort bien, le prana circule bien, ses yeux sont brillants, c'est tout ce que tu comprendras de la magie du Christ. Si tu ne le réveilles pas en toi d'abord, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça tout simplement parce que le monde extérieur n'existe pas vraiment. Même si Christ passe, même si les maîtres passent, même si tes amis existent, ils n'existent pas vraiment. Parce que tout cela, ce ne sont que des projections. Ce n'est pas l'endroit réel de la vie, ce n'est qu'un tableau sur lequel a lieu des projections. Et si tu crois ces projections, tu ne crois pas la vérité, tu ne peux pas la voir. Pour voir le Christ, il faut qu'avant tout, dans l'endroit où a lieu la vraie vie, c'est-à-dire dans le cercle intérieur, il faut que ce Christ soit vivant ou proche de l'être. Ainsi, quand la projection se fera sur le plan physique, tu verras par là même ta propre projection se mêler à la projection de la vie intérieure du Christ et vous allez vous rencontrer. Mais si de toi-même tu n'as pas créé de projection, puisque cela n'existe pas en toi, eh bien tu ne le rencontreras jamais sur le tableau du plan physique. Même s'il existait des milliards de Christ, même s'il existait un Christ qui habite chez toi, tu ne le croirais pas. Tu le trouverais ennuyeux avec ses histoires de nouveau monde, de charité chrétienne. On l'a trouvé ennuyeux il y a 2000 ans. On l'a même trouvé blasphémateur. Croyez-vous qu'aujourd'hui cela serait mieux? Pas du tout. Aujourd'hui encore, on le trouverait blasphémateur. Et on dirait qu'il est un être ennuyeux. Pourquoi? Parce qu'à chaque ère, le messager apporte quelque chose de nouveau. Et non pas nouveau parce que cela n'a jamais été dit. Nouveau dans le sens où les hommes en masse sont sensibilisés à un aspect supérieur de la vérité qu'ils ne pouvaient pas approcher autrefois. Alors pour eux, c'est nouveau. Et lorsque l'on apporte quelque chose de nouveau, il faut détruire l'ancien. Et le messager qui vient apporter cette nouveauté semble porter préjudice à l'ancien. Et c'est pourquoi systématiquement, tous les messies sont appelés blasphémateurs. Systématiquement, ils sont accablés, torturés, voire même sacrifiés. C'est normal. Vous n'êtes pas capable de faire autrement. Ils le savent, ils l'acceptent. Et pour eux, c'est un moment de joie. Pour comprendre la question que vous m'avez posée, comprenez ce que je viens de dire. Vous les torturez, vous les insultez, vous les reniez. Parfois même, vous les exilez. Où vous martyrisez leur corps et ce sacrifice est pourtant un moment de joie pour le maître qui en est l'objet. Si le maître avait votre mentalité, il viendrait dire à Dieu, Tu m'as envoyé sur Terre, et puis regarde dans quel état ils m'ont mis, des trous partout. Parce qu'ils m'ont cloué, sans compter qu'ils m'ont enfoncé un pieu dans le ventre, car ça j'ai encore un trou tout béant. Ça ne va pas, non, de m'envoyer là-bas. En plus, tu me dis qu'ils attendaient le Messie, c'est pas vrai. Ils attendaient rien du tout. Ils voulaient raccourcir la tête à quelqu'un, c'est tout. Si le maître pensait comme vous pensez quand vous m'avez posé cette question, c'est ce qu'il dirait lorsqu'il monterait au Père. Pourtant, ce n'est pas cela qu'il a dit. Lui, comme tous les autres, ce n'est pas cela qu'il a dit. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment a pu-il dire ces mots-là? Il a pu les dire simplement parce que il n'est pas égocentrique. Il ne se dit pas, moi, le Messie, j'arrive, alors il faut que l'on me croie, il faut qu'on me bichonne, il faut que je rencontre des maris partout. Des maris qui viennent me laver les pieds avec leur parfum et les essuyer avec leurs cheveux. Ça me convient très bien parce que je suis le Messie. Mais dès qu'on me parle de la croix, alors non, ça ne va pas. S'il était égocentrique, il aurait pensé de la sorte, mais il n'était pas égocentrique. Il n'était pas égocentrique parce qu'il n'appartenait plus au microcosme, parce qu'il avait basculé dans la vie universelle. Dans l'endroit de la vie où on ne dit plus « moi je, moi je, moi je », mais tout simplement « lumière, lumière, nous, la vie ». Alors son sacrifice était une joie. Il a dit « je souffre, Seigneur, c'est un fait. Mais cette souffrance qui coule hors de moi, c'est un pain de vie qui bâtira pour 2000 ans un nouveau culte, une nouvelle idéologie, une nouvelle voie pour les hommes. Et grâce à cette voie sur laquelle ils vont marcher, ils se garderont de la barbarie et ils pourront devenir des êtres de paix, d'intelligence. Alors torture-moi, Seigneur. Parce qu'en fait, je ne suis pas torturée. Ma vie s'épanche pour développer la vie des autres. Et c'est ainsi que je meurs, en leur donnant la vie. Mais je ne meurs pas vraiment, car tout ce qui meurt renaît sous une forme de vie plus haute. Donc quand je me sacrifie et que je suis dévorée par tous ces êtres, ils ne font que me libérer d'une forme de vie pour me permettre d'accéder à un autre plan de conscience sur lequel je n'aurais pas pu accéder si je n'avais pas été transformée par ces créatures. À ce moment-là, les créatures représentaient le point d'alchimie pour la conscience qui ainsi passait d'un plan à un autre par le sacrifice. Et vous, qui voulez être des hommes et des femmes de joie malgré ce monde de souffrance, sachez faire comme lui. Ne jouez pas les martyrs en portant une croix dans le dos et en disant « Vas-y Seigneur, envoie-moi la haine du monde comme ça, quand j'aurai reçu ma dose, je sais que je vais ressusciter. » Je ne vous dis pas d'agir de cette manière-là, ça ne marchera pas non plus. Des martyrs, il y en a eu de nombreux dans l'Église. Et je vous assure qu'ils ne sont pas pour autant montés au ciel. Ce que vous devez faire, c'est comme il a fait. Comprendre que s'ils agissent de la sorte, c'est parce qu'ils ne savent pas agir autrement. Et que votre sacrifice soit alors une nourriture pour eux. Une nourriture qui les éveille à la connaissance. Soyez ce gouffre dont j'ai parlé. Et quand votre voisin vous aura insulté pendant 10 minutes ou un quart d'heure, et que vous serez resté impassiblement ce gouffre, terminer la conversation en lui serrant la main et en lui disant tout simplement « Bonne journée, je vais penser à ce que vous m'avez dit. Je vais considérer la chose, mais passez une bonne journée. » Et vous allez voir de quelle manière l'homme sera apaisé, décontenancé, comme si vous l'aviez décapité. Car en fait, c'est ce qui aura lieu. Vous aurez fait basculer complètement son mental inférieur. Et il aura la tête vide pendant un certain temps. Et puis il va commencer à réfléchir, il va se dire « Mais comment ça se fait qu'il m'a répondu de la sorte? Qu'est-ce qu'il voulait dire ?» Et puis pendant tout le temps, il me regardait, il ne disait rien. Pourtant, j'avais l'impression que je lui faisais mal. À un moment donné, j'ai même vu une larme qui coulait sur son visage, mais il n'a rien dit. Je l'ai fait souffrir en silence. Je suis monstrueuse. J'aurais préféré qu'il m'envoie des insultes en retour, ou même des gifles, je me serais sentie quitte, mais je l'ai torturée. Tiens, ça me fend le cœur. Bon, demain, je vais aller m'excuser. Et je lui amènerai même des chocolats. Et qui sait, peut-être qu'on pourrait même devenir bon voisin. Il a l'air d'être un brave gars, après tout. Et le lendemain, c'est lui qui vient. Et qui vous demande pardon. Et qui vous apporte des fleurs. Et qui vous invite à manger à la maison. Si bien que, au niveau des incarnations, lorsque l'on fait l'inventaire de toutes les âmes qui ont renié un messie ou un messager, on s'aperçoit qu'un peu plus tard, ce sont ces mêmes âmes-là qui fondent et protègent l'Église de ce même messager. Donc ne vous attendez pas à ce que le monde soit meilleur. Ne cherchez même pas à le rendre meilleur. Cherchez au contraire à faire du monde une sorte de place pour l'exorcisme de l'inconscient humain. Et petit à petit, apprenez à ces êtres à devenir conscients. Ainsi, le monde deviendra meilleur. S'il n'y a dans l'univers aucune place pour que les entités puissent prendre conscience d'elles-mêmes, où cela se fera-t-il ? Vous n'auriez même pas pu exister. Alors ayez la tolérance. La tolérance de laisser vivre les autres, de les laisser évoluer, même s'il s'agit de faire quelques bêtises. Mais en même temps que vous êtes tolérant, soyez prévoyant, prévenant, plein d'amour pour les sauver malgré tout. C'est-à-dire que, en même temps que depuis votre point de silence et votre point d'amour, vous admettez que les individus puissent tout faire sans que pour autant cela vous concerne. En même temps, vous devez être animé suffisamment d'un désir de libérer ces consciences de l'inconscience pour pouvoir les amener vers plus de compréhension, plus de détente, plus de connaissances, etc. Comme je le dis si souvent, c'est une part très difficile du travail du disciple. Parce qu'à ce moment-là, il lui faut toujours balancer avec le paradoxe. Comment ? Je dois être tolérant et je dois admettre que tout puisse avoir lieu sur Terre, car après tout, ce n'est peut-être pas si mal. Il faut que les âmes s'expriment. Et puis de l'autre côté, on me dit que je ne dois pas pour autant tout tolérer, que je dois quand même pousser les gens vers l'évolution, que je dois quand même savoir à qui j'ai affaire. Donc les juger. Alors je ne comprends pas. Tu comprendras si tu te places au milieu et que tu restes l'axe de la balance. Tu sauras exactement dans quelle mesure tu peux tolérer et à partir de quelle autre mesure tu dois intervenir pour changer les choses. Mais si tu es une pauvre âme qui balance d'un côté et de l'autre, alors tu as tous les risques de devenir trop tolérant et de n'être utile à personne ni à toi-même. Ou de devenir intolérant et de n'être utile non plus à personne ni à toi-même. Sois au milieu. Et ainsi tu arriveras à conjuguer tous les paradoxes. Justice et amour. Connaissance, intuition, force et lumière. Plus rien n'est un mystère à partir du moment où tu es ce pilier central. Il n'y a rien de plus facile que de l'être. Je te l'ai expliqué abondamment jusqu'à ce point du discours. J'ajouterai simplement pour que tu aies l'impression de partir avec quelque chose de concret. Que si tu veux cultiver ce centre, pense toujours à ton être comme étant dans le milieu une belle ligne blanche et droite. Et chaque fois qu'il te semble que tu vas t'identifier à quelque chose de malsain ou que tu vas croire quelque chose qui va t'amenuiser ou bien au contraire t'amplifier, et ceci n'est pas mieux non plus. Chaque fois que tu vas te commettre dans des actes que tu sais qui ne conviennent pas, trace cette ligne en toi comme tu traces une épée. Et tiens bon le manche de l'épée. Tiens bon cette ligne. Et sens le calme t'envahir par la respiration. Et pense que tu es lumière. Et que du point de lumière où tu te tiens, Dieu va rayonner. Et ainsi tu feras bien toutes choses, pas tout de suite, mais petit à petit, c'est certain. Donc, pour vous quitter, je vous dirai simplement que si vous voulez être des personnes de joie sur un monde apparemment de souffrance, vous ne devez pas considérer que le monde souffre. Vous devez considérer que des âmes projettent leur disharmonie sur la terre afin de les contempler et de s'en débarrasser. Donc votre joie doit être d'abord de vous libérer vous-même de ces disharmonies et d'en libérer aussi des autres. Cette joie-là, oui, ayez-la. Même si vous êtes fatigué, même si vous n'avez plus aucune illusion à propos de la bonté humaine ou de la grandeur humaine, peu importe, puisque ce n'est pas cela que vous cherchez. Ce que vous cherchez, c'est libérer la conscience, libérer la lumière. Et là est un point de joie inépuisable et éternel. Libérer la lumière. C'est ce que je vous souhaite. Je vous salue.
Nous vous saluons et vous remercions infiniment.